Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut pour l'avant-dernier numéro et on a un invité de marque, un invité d'honneur qui a vécu deux événements marquants dans sa carrière, dans sa jeune carrière d'entraîneur ce week-end. Mais avant de le présenter quand même, le bonjour Arnaud Berdelet, t'as passé un bon petit week-end quand même, t'étais par Mont et par Vaux. Il faut dire aussi quand même qu'on devait avoir Olivier Azam, mais qui a trop fait la bringue, donc bien sûr qu'il est totalement excusé et que voilà, on l'a remplacé au pied levé par l'invité qu'on va vous présenter. Mais salut Arnaud, tu vas bien ?
Salut Raphaël, ouais, je vais bien. Merci à Alex Hurwitz de représenter le staff du Montpellier Rugby. Bon, Poulain Raffut, vous le savez, hein, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, hein, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre téléphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui a vécu un moment fort vendredi et qui aurait pu en vivre un deuxième, encore plus fort peut-être, dimanche.
Oui, comme vous le savez, d'habitude, j'écris toujours un petit texte de présentation, mais bon, Olivier n'a pas pu être présent ce matin, donc j'ai appelé Alex Ruiz à 11h50 et il est 12h05 et Alex est en direct avec nous. Là, donc Alex, je ne vais pas faire ton portrait parce qu'on te connaît, tu es le premier arbitre à être devenu entraîneur officiel dans un club de top 14 et ce week-end, tu es champion de France en tant qu'entraîneur de la discipline. Force est de constater que Montpellier, même si ça a été un peu critiqué au niveau de ça, voilà, que c'était un club qui n'était basé que sur la défense, une défense hors norme, on va dire, cette année. Tu aurais pu être aussi champion de France avec 7, club que tu entraînes aussi avec ton papa, mais tu as malheureusement perdu. On va en parler deux secondes, mais on va rester axé sur le positif, sur les brins que vous avez pu faire, reparler de cette année. Et merci en tout cas de ta disponibilité et bienvenue dans Poulain Raffut. Salut Alex.
Salut, merci pour l'invitation. Merci, bonjour à tous.
Alex, on va commencer par le plus important. Raconte-nous un peu cette bringue quand même vendredi soir.
Avant ça il y a eu le match quand même, mais
on va en parler titre de champion de France, ça se fête.
Oui bien sûr, après c'est vrai que du coup j'ai mis du temps à le savourer, j'ai mis du temps à lâcher un petit peu la pression, j'étais tendu, c'était la première finale au Stade de France, donc c'était un contexte particulier, mais après le président et le back office avaient organisé une troisième mi-temps dans une boîte à blanc Paris où on a pu accueillir nos amis proches et nos familles. Donc c'était un grand petit moment et j'ai quitté la boîte très tôt le matin. Donc du coup c'était un bon petit moment, c'était agréable. Et après comme tu l'as dit, on est rentré samedi sur Montpellier avec un accueil à la Comédie qui était assez impressionnant. Et après, on était reçus au GGL avec là aussi énormément de monde qui nous ont accueillis. Et c'était vraiment un grand moment. Je crois que Montpellier avait besoin de ça aussi pour rassembler. Et ça a permis de faire taire quelques mauvaises langues qui disaient que Montpellier n'avait pas de public. Et sincèrement, l'accueil était remarquable.
Alex, pardon, excuse-moi Arnaud, mais tu disais à jamais les premiers. Tu es le premier, je le disais, arbitre à devenir entraîneur officiel en top 14. Vous êtes à jamais les premiers maintenant champion de France avec Montpellier. Tu es arrivé en fait à un moment, je dirais presque charnière au sein de Montpellier, parce que Montpellier sortait d'une saison compliquée, mais avec quand même un titre de champion d'Europe. Voilà, c'était vraiment l'occasion d'arriver dans un club qui a surfé aussi sur cet esprit revanchard pour Moued Altrad quand même, qui après 12 ans et deux finales perdues est enfin champion de France. Revanchard pour Philippe Saint-André qui en avait chié avec le 15 de France, il le disait lui-même, son téléphone qui ne sonnait plus. Revanchard aussi pour, enfin pas revanchard, mais je veux dire, voilà, Benoît Payog et Fufu Ouédraogo qui partent le cul assis sur le bouclier, ainsi que Guillaume Guirado. c'est quand même assez génial d'arriver dans un club en fait qui est voilà qui a réussi à surfer aussi et qui a voulu prouver justement qu'il pouvait être à jamais les premiers.
Ouais, il y a ça et franchement, j'avais pas calculé mon arrivée. Ça s'est fait vraiment en l'espace de un mois entre les propositions, les discussions qu'il y a eu avec Philippe, Olivier, Jean-Bas et le président au Mondial Trad. Ça a été très rapide la prise de décision, le choix. Il a été critiqué. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, je m'occupe de la discipline, mais pas que. Comme Philippe s'attelle à le dire au quotidien, ça fait 16 ans que j'entraîne. C'est pas que d'aujourd'hui. Donc, j'ai mes diplômes d'entraîneur aussi. J'ai passé tout ça en amont. J'avais bossé, je te l'avais dit l'année dernière. Ce qui est bien aussi, c'est que tu parles d'un départ de Fufu et départ de Guillaume. Ils partent par la grande porte. Guillaume, qui avait connu beaucoup de défaites ces derniers temps, depuis 2009, je crois qu'il n'a pas gagné le titre après Perpignan. Fufu n'avait jamais gagné, et puis c'est remarquable. Benoît, avec tout ce qu'il a fait pour le club, c'est admiratif. Mais si on parle du staff en lui-même, tu parlais de Philippe, franchement, je lui disais au bout d'un mois, après au stage en Corse, que j'avais rencontré en lui, en l'espace d'un mois, une personne remarquable. J'avais un regard comme le grand public, où on essaye de regarder les gens sans les connaître et les critiquer, c'est toujours plus facile.
T'as connu ça en tant qu'arbitre, hein ?
Voilà, c'est pour ça que je dis ça.
On avait parlé plusieurs fois d'ailleurs ensemble.
Et je le vois au quotidien aussi aujourd'hui en tant qu'entraîneur. On a tendance à regarder juste le verre à moitié vide et dire que ça gagne parce que je suis présent dans un staff ou parce que ma présence au bord du terrain, etc., etc. Jusqu'à là, des violences critiques sur les réseaux sociaux, mais ça fait partie du jeu. Mais quand tu parlais de Philippe, tu parlais du président Altrad qui a attendu 11 ans de présidence pour gagner un titre et vraiment, il mérite. Mais j'aimerais aussi, tu vois, parler de mec comme Bruce Grana qui était à Bristol l'année dernière. C'est notre entraîneur de skills et de jeu au pied. Et on a vu nos skills vendredi soir. Ils étaient de grande qualité. Je pense que c'est tout à son honneur. Il faut aussi parfois parler de lui parce qu'on en parle très peu. Mais c'est aussi, tu vois, à partir d'une saison avec Jean-Bas et Zed qui avait besoin aussi de nouveaux challenges en France et qui l'a dignement relevé avec 6 mois, la Challenge Cup l'année dernière au bout de 6 mois et puis au bout d'un an et demi, un titre à Montpellier. Et Jean-Bas qui a été beaucoup aussi décrié avec les dernières années toulousaines où on disait que Jean-Bas et le jeu toulousain avait disparu, mais on se rend compte que Jean-Bas, il a beaucoup de talent, il a beaucoup de caractère aussi, mais voilà, sur l'aspect offensif, Jean-Bas est très, très fort. Il a une analyse de l'adversaire très, très pertinente et que je pense que la Coupe du Monde en 2019 au Japon, elle est aussi le fruit de sa réussite à lui pour la France, même si elle a perdu un quart. Et qu'aujourd'hui, là, pour le grand public, Jean-Bas est un grand entraîneur aussi. Donc voilà, on avait, je pense que dans notre staff à 5, on avait une revanche tous individuelle. À prendre ou à montrer ou à prouver si c'était encore le besoin, on était besoin de le faire. Et je trouve que c'est une bonne chose pour nous parce qu'on a réussi notre challenge, parce que Philippe nous a fait confiance et que le président Altrad a écouté Philippe et a laissé Philippe carte blanche pour faire son staff. Mais tu vois, dans ma tête, je suis déjà basculé pour l'année prochaine parce que le plus dur, je pense, dans notre sport ou dans la vie de tous les jours, c'est prouver et continuer à prouver, se remettre en question et qu'il faut de suite basculer.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, Z, c'est Olivier Azam, hein, c'est son surnom quand même, parce que tout le monde ne le sait pas, donc juste pour préciser. Alex, une question toute bête, mais effectivement, il y a un an, on t'avait reçu dans cette émission avec Raph, c'était une décision forte que tu avais prise, courageuse. À ce moment-là, tu t'imagines, un an plus tard, déjà sacré champion de France, parce qu'il y a peu d'entraîneurs qui, pour leur première année d'exercice, terminent quand même avec un titre de champion de France.
Non, j'espérais juste, et vraiment, c'est ce qu'avaient fait vos confrères de Canal, tu vois, c'est ce que j'avais dit à Guillaume Garrigue, je voulais juste que le grand public, et puis d'un côté, et d'un petit égo de ma part, mais découvre l'entraîneur que je suis et qui ne parle plus de l'arbitre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me peut-être focalisait juste sur le fait que je m'occupais de la discipline, mais je ne fais pas que ça, et j'en fais très peu au club, en fait, on établit, on monte beaucoup notre projet autour de ça, parce que c'est un paramètre déterminant à la performance, à mon sens. Mais franchement, j'espérais réussir surtout mon premier challenge, c'était m'intégrer dans le groupe, ce que j'ai fait un stage en Corse très très vite auprès des joueurs qui...
Raconte-nous, parce que ton sourire en dit long.
Non, mais je me suis intégré, quoi. J'ai fait la troisième mi-temps, tu vois, j'ai fait partie du bon temps avec les mecs, je voulais surtout qu'ils découvrent l'homme que j'étais et qu'ils fassent abstraction des 10 ans de l'arbitre qu'ils ont connu. Avec qui peut-être certains je me suis accroché ou passé, tu vois, voilà, on avait des...
Oui, parce qu'il y a cette image, et d'autorité, justement, qui peut aussi déranger. Il faut arriver à casser, arriver à trouver, comme tu le dis, arriver à trouver sa place aussi dans un staff, sans trop en faire, participer au troisième mi-temps jusqu'au bon moment, je dirais. C'est stratégique aussi de trouver sa place en tant qu'ancien. Et comme je dis, t'es le premier. Donc, voilà, il faut, je pense que c'est de la broderie, quoi.
Ouais,
tu veux dire savoir quitter la troisième mi-temps au bon moment, pas comme Olivier Azam, c'est ça?
Mais tu vois, c'était surtout trouver le bon équilibre, arriver à trouver les joueurs, à ce que les joueurs arrivent à avoir confiance de suite à moi. Ça, c'était important au départ, qu'on arrive à couper un petit peu les ponts sur la distance qu'il y avait préalablement entre nos fonctions différentes. Mais c'est vrai, comme je disais, je le répète, je le dis tout le temps, ça fait 16 ans que j'entraîne, donc j'ai réussi aussi à cultiver cette façon de manager de loin. Après, il a fallu aussi que on trouve un juste équilibre dans le staff, que Philippe trouve le bon équilibre entre nous tous, parce qu'on a, pour être entraîneur à ce niveau-là, il me semble qu'il faut qu'on ait de l'ego, et du coup, Philippe gère des egos et il gère 23 membres de staff qu'il faut pas oublier, les 5 prépas, les 3 kinés qui font un travail remarquable au quotidien, nos intendants, voilà, les team managers. Et franchement, on oublie parfois d'en parler. Philippe les utilise beaucoup, il appelle ça les travailleurs de l'ombre. Et du coup, voilà, on a réussi à trouver une osmose entre nous. Et ça a été riche très tôt dans la saison. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a ressenti sur le terrain qu'il y avait beaucoup d'énergie, de fraîcheur entre nous. Et on l'a montré surtout sur nos phases finales. Donc, c'est cool, quoi.
Est-ce que tu t'inspires de l'entraîneur que tu es justement à 7? Je le rappelle, tu entraînes avec ton papa. Est-ce que tu t'inspires de l'attitude que tu as avec tes joueurs à 7? Pourquoi je te pose la question? Parce que moi, ce que j'aime aussi dans le staff de Fabien Galthié, c'est que c'est William Servat qui disait je veux entraîner l'équipe de France avec le même état d'esprit que j'entraînerais un club de troisième série. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu
Ouais,
vois, dans l'état d'esprit, hein? Ouais.
je comprends parfaitement, mais c'est très légitime la question que tu poses, Raph. Elle a du sens parce que, et je le dis, je l'ai dit à Midi Olympique aujourd'hui, en fait, pour moi, quand tu sois champion de France ou que tu joues un titre en réserve de troisième série, ça va être péjoratif, ou chercher le bouquet de Brennus en top 14. Tu joues au rugby, c'est une passion, tu entraînes des hommes et tu construis une équipe. Et pour moi, c'est la même philosophie. Là, aujourd'hui, tu vois, je suis chez une troisième ligne, là, ce matin, la troisième ligne de 2-7, on va faire
Il
une
peut
meilleure
apparaître ou pas bien qu'ils disent bonjour quand même.
Irving, il va mettre un t-shirt, mais un t-shirt, il n'y a pas. Il est parce qu'il est
Donc
portugais.
là, mesdames et messieurs, oui, c'est un podcast, d'accord, vous ne verrez pas les images, mais on a un troisième ligne justement qui malheureusement a perdu une finale, ben justement, pas à 7, le nombre de joueurs, mais dans la ville de 7 qu'Alex entraîne. Voilà, oh, il n'a pas mis le t-shirt, il est là. Voilà. Belle coupe, belle moustache. Salut mec, ça va?
Salut. Et
Bah,
du coup,
bienvenue dans
voilà.
Poulain Rafut. Alors, comment on vit justement une finale perdue avec un entraîneur comme Alex Ruiz, justement, qui a vécu dans le même état d'esprit, entraîner un club de top 14 et un club comme 7?
C'est amer.
Hein?
Non, parce que on voulait concrétiser tout ça, quoi. Notamment, d'autant plus pour lui que pour nous, quoi. Ça aurait été encore plus beau pour lui parce qu'il en aurait gagné deux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'auraient fait, quoi, au niveau professionnel et amateur, quoi. Ça a été quelque chose de grandiose. Et pour nous, c'est, voilà, il manque la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà,
Ouais, mais même si le gâteau est toujours bon, et c'est clair que la victoire, elle
c'est
fait
bon, mais
toujours.
voilà, quoi. C'est
Et comment il est en tant qu'entraîneur, Alex, alors? Vas-y, vas-y, balance, balance, même s'il est à côté.
j'avais pas peur. Il y en a beaucoup qui ont peur de lui, moi j'avais pas peur. Non, il est très bien, il est très perfectionniste, quoi. C'est le top, quoi, pour tout le monde. Faut marcher, c'est comme lui, il a envie de faire. C'est pas, en fait, c'est comment dire, il prend les idées de tout le monde et après il a sa façon de faire et ses idées à lui qui sont très très bonnes, parce que voilà, la preuve, ça a été la preuve de cette année, quoi. C'est dur pour certains et moins dur pour d'autres. Il est très perfectionniste, quoi.
Justement, Alex, une petite question par rapport à ça. Comment on fait pour adapter son exigence? Est-ce qu'on a la même exigence avec des joueurs professionnels qui vivent de leur passion, comme tu entraînes au MHR, et avec des joueurs qui évoluent en honneur, pour qui c'est pour certains un loisir?
Ben, tu vois, tu le dis bien, un d'un côté j'entraîne des pros, l'autre clairement des amateurs. Sur le club de 7, on est en honneur, on a fait 21 victoires en 22 matchs avec 0 centime. Il n'y a pas un argent dans le club, il n'y a pas un centime. On a un budget difficile, mais il n'y a pas du tout de rond. Et du coup, la seule chose que je prends en compte au quotidien, c'est avoir conscience du public que tu as en face de toi. Et je pense que c'est la réussite de ce discours-là. À partir du moment où tu es sûr et tu es convaincu de savoir à qui tu parles, c'est plus simple. Alors, Irving parlait d'exigence. Oui, je suis exigeant parce que je suis énormément envers moi-même. J'ai toujours été et je le serai toujours. C'est mes convictions profondes. Mais je sais au fond de moi à qui j'ai affaire en face de moi. et que je peux demander plus peut-être à Montpellier parce que les mecs sont payés et parce que c'est un facteur important aussi à prendre en compte, que des fois à 7, je peux parler différemment parce que je sais qu'au fond, ils sont totalement amateurs et que les mecs ils viennent de faire 10 heures sur un chantier parce qu'il y a des maçons et que le soir, c'est plus compliqué de leur être plus exigeant. Donc, je pense que le plus important, c'est avoir conscience du profil de la personne que tu as en face de toi et d'être conscient que ben, y a la vie de famille, il y a eu les exigences aussi de l'adjoint de boulot, de 10 ans, 10 heures sur là, ou des infirmiers. Voilà, il y a tout ça qui doit être pris en compte. Et à partir de là, quand tu as pris ça en compte, je pense que tu as fait un grand pas.
Alex, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la finale de vendredi contre.
Merci Erwin.
Ouais, merci Erwin.
Juste te remercier parce que tu es peut-être en train de préparer la bouffe pour Alex. Mais ne te fais pas trop tort quand même. Ne te fais pas trop tort qu'il aille cuire sa côte de bœuf là.
Il va attendre en plus.
Bon, merci beaucoup. Salut.
On va revenir quand même rapidement sur la finale de vendredi, Alex. C'est une finale que le MHR a dominée hein, de la tête et des épaules. On a même souri en tribune de presse. Certains ont dit que c'était la finale la plus courte de l'histoire du top 14. Est-ce qu'au sein du staff, vous vous attendiez à autant dominer, à être autant dominant et à plier cette rencontre aussi rapidement?
Mais tu l'as vu, Arnaud, tu n'étais pas très, très loin de moi pendant le match. Et à un moment donné, je ne savais pas si je criais fort ou on entendait ou on n'entendait pas, je ne savais plus.
Ah, c'était Philippe qu'on entendait surtout.
Ouais. Mais ça, c'est Philippe, c'est tout le temps. Il le vit avec passion. Et puis, je pense que c'était aussi au fond de lui, même s'il ne va pas le dire, il ne le dira pas. Il avait, je pense, cette revanche qu'il avait envie de montrer au grand public que Philippe André était un grand entraîneur, un grand manager surtout.
Parce de façon légitime.
Manager 50 mecs plus 23 mains du staff, franchement, c'est pas simple et la réussite, elle est aussi la sienne. Comment on l'avait préparé, sincèrement, je l'ai dit le soir après le match quand j'ai fait l'interview sur le stade avec mon fils. J'ai juste dit qu'on a eu un passage à vide, c'est vrai, après Bordeaux, on a eu un coup de fatigue. Parce que c'est légitime, on avait enchaîné beaucoup, on avait fait des belles performances et on était convaincus au fond de nous que ce qu'on faisait c'était le rugby qui marchait et du coup il fallait juste qu'on arrive à mettre les choses dans l'ordre. Ce qu'on a fait en demi à Nice, je pense qu'on avait fait une belle partie, on a mis les choses dans l'ordre, on avait été très bon en défense, on était monté très fort et très haut et on avait dit que si on voulait gagner Castres, qui était une sacrée équipe aussi en top 14, qui avait un petit peu le même profil de jeu que nous, qui dépossédait un petit peu le ballon, mais qui, sous les turnovers ou sur les bandes de contre-attaque, était une équipe très dangereuse, qui avait touché des couloirs avec des joueurs qui cassaient duellistes, qui cassaient beaucoup de plaquages. Et moi, ce qui m'a fait juste plaisir au fond de moi, vraiment, et c'est la vérité, c'est qu'on nous a catégorisés dans une équipe qui était défensive, qui tapait beaucoup dans le ballon, c'est vrai. Mais l'équipe de France tape beaucoup dans le ballon. L'équipe de France dépossède le ballon. Elle met les équipes dans les couloirs, elle les enferme dans les coins. Et c'est un rugby qui fonctionne. Par contre, quand on voit l'équipe de France contre les Blacks, j'ai les images de Damien Penaud qui contre-attaque. On dit, wow, l'équipe de France est une équipe offensive. Et finalement, c'est d'abord une équipe défensive et qui contre-attaque. Et c'est ce qu'on a fait, nous, en l'espace de 3 essais et de 20 minutes de jeu. Je pense qu'on a marqué 3 essais vraiment magnifiques. Ce n'est pas les choses qu'on travaille en entraînement, la redoublée de Arthur entre Arthur et Anto, mais c'est parce que les joueurs étaient en confiance. Et franchement, c'était, moi, à mon sens, c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'était waouh, quoi.
Est-ce que vous vous êtes nourri justement, Alex, de ce sentiment? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit hein, que c'était une équipe un peu avec un jeu fermé. Ça a été beaucoup dit, beaucoup écrit. Et on a le sentiment que ça vous a pesé au sein du staff. Parce que j'ai souvenir, effectivement, j'étais pas loin de Philippe quand, sur le troisième essai d'Anthony Boutier, où Philippe regarde la tribune de presse en disant « Alors, ça, c'est pas du beau rugby ?» On a senti que vous étiez nourri quand même un petit peu de ces critiques et que vous en aviez fait finalement une force et que vous aviez répondu de la meilleure des manières. Parce qu'effectivement, ces 3 essais sont assez exceptionnels avec beaucoup de jeux debout, le ballon qui est tout le temps en mouvement. On a senti aussi qu'il y avait une envie de déplacer cette équipe de Castres et d'éviter de passer par le sol parce que cette équipe de Castres, elle est extrêmement pénible sur le jeu au sol.
Ouais, d'abord sur le jeu au sol, en plus c'est mon compartiment aussi, donc on le savait, donc on voulait éviter ça, mais on a montré aussi qu'on était prêt dans ce domaine-là quand il fallait y être ce week-end. Mais au-delà de ça, on a toujours des références, et aujourd'hui dans le rugby français, des entraîneurs comme Pierre Mignoni, Christophe Furios ou Hugo Mola sont des grands entraîneurs pour moi parce qu'ils sont en capacité aussi de s'adapter aux joueurs qu'ils ont en face d'eux. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est savoir surtout quel est le joueur que tu as en face de toi et quel rugby tu veux faire. Et pas faire l'inverse, de ne pas dire ce rugby-là, c'est celui que j'aime et je veux le faire avec ces joueurs-là. Des fois, ça ne fonctionne pas. Et du coup, ce que je pense qui a été une force de Jamba, Zed et Philippe l'année dernière, c'était surtout s'adapter aux joueurs qu'ils avaient en face d'eux. Et que quand on est arrivé cet été avec Bruce, on a discuté beaucoup avec eux et c'était un sentiment partagé. Aujourd'hui, on a une équipe avec des défensivement des plaqueurs de malades, et il faut le dire, c'est une vérité. On a une équipe généreuse. On l'a vu. Moi, je suis impressionné par l'activité de Flauvérac et Bastien Chalureau sur les phases finales. C'était assez remarquable. Mais on est capable aussi, que ce soit Bastien ou Flo sur le match, de faire des offloads, de faire des passes contact, parce que c'est dans leur ADN aussi toulousaine. Mais que voilà, on a une équipe qui aujourd'hui correspond au rugby d'aujourd'hui. On a des règles qui font la 50-22. L'exemple très 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 dense, c'est que tu es obligé de sortir des mecs de ton premier rideau. Si tu ne les sors pas, eh bien, tu prends des joues au pied dans le dos. Et qu'aujourd'hui, tu dois jouer avec cette règle. À partir du moment où cette règle-là, elle est là et que les joueurs ne sont pas encore, mettent pas 3-4 joueurs sur le champ profond, et tu es toujours aussi dense sur le premier rideau, tu es obligé de trouver d'autres solutions. Et donc, Castres le fait très très bien quand ils vont toucher ces couloirs et qu'ils vont très vite jouer sur les extérieurs parce qu'ils ont cette capacité-là et les joueurs-là. Nous, aujourd'hui, nos joueurs qui sont remarquables se sont retrouvés, même si au départ c'était un peu dur, dans ce rugby de dépossession, mais un rugby de turnover et de contre-attaque.
Et est-ce que vous êtes nourri de ce sentiment, alors du coup, où effectivement vous avez peut-être enfermé dans un carcan qui n'était finalement pas le vôtre?
Mais en fait, ce qu'on a essayé de faire au quotidien tous les cinq, c'est surtout se convaincre, parce qu'on était convaincu que ce rugby-là, c'était un rugby qui fonctionnait, c'est un rugby qui est adapté à nos joueurs. Peu importe les critiques qui pouvaient être émises, le rugby du jeu, les joueurs s'y retrouvent. Et qu'on a vu au fil de la saison que, surtout dans la période en plein hiver, où on a enchaîné des matchs et qu'on a enchaîné des victoires, les 10 matchs sans défaite qu'on a effectués. Et franchement, on s'est rendu compte que là, que c'était le rugby qui était adapté à notre équipe et que peu importe ce que le grand public allait penser, le plus important, c'est qu'il fallait qu'on soit au rendez-vous le 24 juin. Et on y a été, c'était nos rendez-vous le 24 juin, on l'a fait. Et puis, on l'a fait de très belle manière.
On va revenir encore un petit peu sur cette finale. On va rentrer dans l'intime un peu, Alex. Mais au coup de sifflet final, qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que tu as des mots pour décrire ce que tu ressens ? Alors, on va dire au coup de sifflet final, mais peut-être même 10 minutes avant, parce que 10 minutes, allez, mais presque un gros quart d'heure avant la fin du match, on savait que le Castres olympique ne pourrait pas revenir. Mais qu'est-ce que tu as ressenti au plus profond de toi ?
Alors, moi, j'avais un sentiment mitigé. D'abord, je suis allé chercher mon fils. Donc, je suis descendu à la 65e. On n'avait plus vu en tribune de presse parce que je n'arrivais plus à tenir. Donc, je suis descendu. Et ensuite, je suis allé rejoindre mon fils qui était avec mes amis d'enfance, son parrain, etc., ma famille, quoi. Et je suis allé chercher mon fils. Je l'ai pris avec moi sur le terrain. Je lui ai fait un gros bisou, un gros câlin. Je l'ai reposé. Et là, je me suis dit dans ma tête, c'est fait, quoi. Et après, j'avais un sentiment aussi, moi, plus personnel, plus profond, qui était, je ne voudrais pas le polémique, mais j'avais une vengeance un petit peu ou une rancœur et je voulais juste la vaincre. Et au fond de moi, je me suis dit, t'as prouvé et c'est bien parce que maintenant, les mauvaises langues qui vont le verre à moitié vide pourront fermer leur caquet.
Au moins, le message est clair.
Mais oui, mais ce côté, c'est ce côté revanchard, moi, pour l'avoir vécu. Alors après, sur les titres qu'on a pu gagner avec le Stade français, on était détestés de partout, parce qu'un peu précurseur, parce que voilà, tu révolutionnes en fait une manière de fonctionner. Le rugby se découvrait professionnel. Et c'est vrai que ce côté revanchard, je pense qu'il motive. Nous, le seul endroit, comme je le dis souvent, hein, le seul endroit où on était connu à Paris, c'était dans le Marais pour les calendriers. Le rugby n'était pas connu dans Paris. Et c'est vrai que les 15 autres clubs dans lesquels on allait jouer, hein, parce que c'était le top 16 à l'époque, quand tu avais David Oradou qui se faisait dépoutrailler à Bourgoin, qui se faisait dépoutrailler à Perpignan, ben en fait, c'est une source de motivation aussi, ce côté revanchard par rapport à ceux qui peuvent te critiquer. Et ben en fait, tu prouves sur le terrain que, tu vois, là, en gagnant des titres, tu fais juste. C'était l'introduction. J'avais mis, tu fais fermer les bouches de vieilles en fait, à toutes celles et à tous ceux qui peuvent te critiquer. Arnaud, vraiment connaître ce qui se passe à l'intérieur. Ouais.
Arnaud, Raph, il y a un truc c'est parce que c'est mes convictions profondes et que c'est ma façon de voir la vie aujourd'hui. Je n'ai pas de leçon à donner. Il n'y a personne qui doit aujourd'hui prendre en compte ce que je suis en train de dire s'il le prend comme une fée de donneur de leçons. Mais comment aujourd'hui on peut regarder le verre à moitié vide quand on voit un président comme Mouad Altrad, quand on connaît son histoire, qu'on lit ses livres, parce que quand même j'ai lu ses livres. Et toi, Raph, si. J'ai fait une interview l'année dernière et je l'avais longuement écouté. Comment aujourd'hui on peut regarder le verre à moitié vide quand un monsieur comme ça, à son âge, son investissement, sa vie, sa carrière, on peut le critiquer? Comment on peut dire que quelqu'un qui donne de son temps, de son argent propre, qui à lui c'est le sien, il la vaut la personne, il gagne au quotidien, dans le monde entier, il dépasse des heures. Et comment aujourd'hui on peut se dire que ce monsieur ne mérite pas de gagner un bouquet de Brennus. Comment on peut dire que ce monsieur ne mérite pas juste le respect ?
Comment on peut le dire ? Très simplement, c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui. C'est toujours plus facile de dégueuler dans la gamelle de l'autre plutôt que de se regarder en face aussi, c'est parce incroyable. Que ça donne envie, parce que il provoque chez ceux et celles qui n'ont pas envie de se pencher sur le parcours, le voyage qu'a fait Modaltra du désert jusqu'à aujourd'hui et qui a encore l'humilité de regarder la caméra de Canal+ et de dire « bah ouais, j'ai fait des erreurs et j'ai appris de ces erreurs-là et aujourd'hui je suis champion, mais j'ai fait des erreurs, on nous a critiqués ». Mais quand je dis et quand tu lis, j'ai eu la chance d'échanger moi pendant 3 heures avec moi dans son bureau, on a parlé un quart d'heure de rugby et le résultat, on a parlé de philosophie, on a parlé de son parcours et du mien. Et quand tu vois le parcours de cet homme qui forme, voilà, l'admiration, au-delà de la réussite financière, c'est un parcours qui… Mais Alex, c'est à la mode aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est à la mode de critiquer, c'est le jugement sans fondement, ce sera toujours plus facile, je te dis, de montrer du doigt ceux qui sont précurseurs. Max, en son temps, a été critiqué, et le voyage de Moed est complètement différent, mais aujourd'hui, il est sponsor de l'équipe de France, il est sponsor des Blacks, aujourd'hui, il est champion de France, c'est l'un des meilleurs entrepreneurs au monde de ces dernières années. Bah, écoute, voilà, si tu as envie de le critiquer, ouais, mais… Voilà, c'est à la mode, ceux qui savent, vous le savez, enfin tous ceux qui ont pris la parole depuis ce titre le savent, voilà, on le sait.
Justement, Alex, Raph évoquait l'espèce de mini mea culpa que le président Altrade a fait. Il a dit qu'il avait tiré beaucoup d'enseignements, hein, des erreurs qu'il avait faites par le passé. C'est lui hein, qui le dit. Aujourd'hui, il veut travailler dans la continuité. Parce que c'est vrai que par le passé, il y a eu un peu une valse des entraîneurs à Montpellier. Quand on est entraîneur à Montpellier et que le président dit qu'il veut travailler dans la continuité, ça doit être rassurant, non ?
Ouais, mais après, on a gagné, je pense qu'on a gagné sa confiance tout au long de la saison. Je pense que Jean-Bazet et Philippe l'avaient gagné depuis l'année dernière aussi. Nous, le challenge, c'était de la gagner la sienne très, très vite avec Bruce. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fait. Et on a renouvelé avant les phases finales. Donc, c'était quand même voilà, une certaine volonté, peu importe l'issue de la saison, elle était de continuer avec nous. Et c'est vrai que quand on voit ces dernières années que ça a un petit peu bougé, c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais beaucoup réfléchi l'année dernière, c'était me dire est-ce que c'est pas un challenge risqué. Donc aujourd'hui, tu sais, j'habite moi juste à Port-Tirane, un petit village à côté de Béziers où je vis toujours. J'ai 40 minutes pour aller à Montpellier tous les jours, je le fais. Et quand je sais que je vais rester encore là plus de 3 ans de plus pour voir mes enfants grandir, les amener à l'école ou les chercher le soir et leur faire le devoir, du coup, ça me réconforte dans l'idée d'avoir pris cette décision-là.
Et de faire un métier que t'aimes, c'est d'autant plus inspirant aussi, tu vois, dans la lignée de ton métier d'arbitre. Tous les ingrédients sont réunis, quand même, la vie est belle, quoi. Hein, oui, au-delà du titre, c'est cool. Quoi. Malgré ce titre pas, voilà, que tu n'as pas réussi à glaner dimanche avec ton papa.
Oui, c'est vrai que c'était un titre que je voulais parce que c'était de famille, il y avait mon père et mon fils et ça aurait été un grand moment. Mais voilà, comme je l'ai dit aux joueurs hier soir, je n'ai pas envie qu'on raye la saison. Hier soir, on a perdu contre une équipe qui était peut-être meilleure que nous. On n'a pas tout à fait le meilleur match de la saison, ça c'était un fait. Mais au-delà de ça, tu vois, même là, au quotidien, c'est incroyable. Il vaut mieux que je ne lise pas les réseaux sociaux, je ne les lis pas, je m'en vais parce que je ne peux plus supporter tout ça. C'est plus facile de parler à un écran. Je n'ai jamais vu une personne venir me parler en face et me dire que j'avais parlé à l'arbitre avant le match. Sincèrement, depuis que j'ai arrêté l'arbitrage, ça fait un an. À part les amis très proches de l'arbitre, je n'ai personne au téléphone. Quoi. Voilà,
tu sais, dans l'émission que je fais depuis 5 ans, hein, c'est Cali qui me l'avait dit dès le début, lis pas les réseaux sociaux. Je te dis, une fois de plus, hein, c'est la cour des miracles. Tu les lis parce que tu as autant des bons commentaires, hein, mais tu vas en prendre un, tu vois, et ça va vraiment te prendre la tête. Je pense qu'il faut complètement s'en séparer. Ça, c'est une question aussi de maturité. D'ailleurs, la preuve, tu ne les regardes plus. Mais voilà, tu sais où t'es, tu sais que le travail paye et qu'aujourd'hui, bah, t'es champion. Donc, les réseaux, je pense qu'il faut s'en séparer un petit peu. Ça n'a pas grand-chose de social, on va dire, quand même.
Ah non, c'est pas du tout social. Et puis, moi, j'attache beaucoup d'importance à la valeur des hommes et je préfère discuter autour d'une bière. Et tu vois, aujourd'hui, Montpellier, ils mangent ensemble sur un resto à midi. Il y a un rendez-vous à 13h30, mais je prends le temps d'être avec le joueur de 7. Parce que pour moi, voilà, tout le monde mérite aussi que je partage mon temps. Et que je pense que c'est bien, les joueurs, c'est pour ça qu'ils en sont reconnaissants. C'est que je l'ai partagé toute la saison, mais je le partagerai. Après, demain soir, sera une soirée différente à la Garden Party.
Alors justement, avant de te libérer, Alex, un petit mot quand même, parce que tout à l'heure, tu nous as dit que tu te projetais déjà sur la saison à venir. C'est quoi le programme La reprise, elle est fixée quand? Les joueurs ont besoin, de, j'imagine, de souffler. Est-ce que c'est quoi, 4 semaines, 5 semaines de vacances?
Là, en fait, Philippe, avait, on avait planifié trois plans avant les phases finales. Avant Clermont, parce que si on allait en barrage et qu'on perdait en barrage l'issue, en demi et en finale, donc du coup, on reprend le 1er août. De demain, le 28 juin jusqu'au 1er août. Je ne vais pas trop parler rugby, je vais essayer de couper. Je vais partir dans une quinzaine de juillet avec mes enfants, puisque je suis divorcé et que c'est mes 15 jours de vacances. Et je vais faire pareil avec les joueurs de 7. Je vais laisser souffler un mois parce que là, ils ont fait 11 mois eux aussi et qu'ils méritent de faire ça. Et j'irai faire quelques tours rougeoutes sétoises pendant l'été et boire quelques verres de vin.
Un petit mot quand même avant de conclure, Alex. On dit que l'année post-titre est toujours une année très difficile. Vous y avez, j'imagine, déjà réfléchi. Philippe Saint-André est quelqu'un d'expérience qui a gagné déjà pas mal de titres, notamment de l'autre côté de la Manche. Montpellier va être l'équipe à abattre la saison prochaine. Comment ça va s'articuler tout ça?
Ben, c'est pour ça que je disais que je m'étais projeté directement sur l'année prochaine, parce que je le faisais avec l'arbitrage. Quand tu faisais un grand match ou tu arbitrais un grand match ou tu le réalisais bien, la performance était bonne, il fallait tout te projeter sur la suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est pour ça que j'ai du mal des fois à me lâcher après les matchs, le samedi, avec les joueurs à Montpellier ou le dimanche avec 7, parce que de suite je parle à la suite. Et la difficulté là aujourd'hui, c'est se dire est-ce qu'on va oublier les valeurs de notre sport qui sont en grande partie l'humilité. Je pense que là il faut profiter, les joueurs vont profiter, mais qu'on doit de suite se projeter. Oui, on en a parlé parce que Philippe a déjà parlé de tout ça, cette remise au travail, et que le staff, on devait arriver un petit peu avant la reprise et bosser ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'aussi on va avoir un vent de fraîcheur avec les choix du recrutement de Philippe.
Un très joli recrutement, une belle charnière, Léo Colli, le petit Carbonel, voilà. Un pilier néo-zélandais dont j'arrive pas à prononcer le nom.
Le gaucher, ouais. Mais qui arrivera plus tard parce qu'il va jouer le championship.
Ouais.
Après, Louis va arriver aussi un petit peu en retard puisqu'il il est au Japon et il y a Léo qui va rentrer. Voilà, il y a quelqu'un recrutement, il va falloir aussi qu'on se projette. Et eux, ils auront, je pense, aussi cette envie-là de prouver, de suite rentrer dans le groupe. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre, si la mayonnaise prend de suite, de repartir sur une dynamique positive. Mais on a, je pense, des caractères tous de compétiteurs. Aujourd'hui, on a voulu prouver, on l'a fait, et je pense qu'il faut qu'on garde cette faim au fond de nous qui va nous animer pour continuer à prouver et pas lâcher le truc. Moi, j'ai le tempérament de me remettre au boulot tout le temps, donc je vais le fêter cette semaine, mais je l'amènerai aussi à mon village, à Port-Tirane, parce qu'il y a la fête, il y a la feria au mois de juillet. Je vais essayer de l'amener, faire profiter mes amis, ma famille, mon village. Mais après ça, franchement, je suis déjà à la tête à la saison prochaine.
Allez, une dernière question, parce que ça, évidemment, tous ceux qui nous écoutent ont envie de savoir. C'est la question du jour. Est-ce que Michael Capelli est arrivé à Montpellier?
Oh, putain, c'était énorme. Vous savez, la gare de Lyon commençait. Donc, on était deux bus. Il y avait le bus des joueurs, le staff, et il y avait derrière le bus des familles. Et ensuite, l'autre côté, il n'y avait personne. Et lui, on est tous partis et il est monté dans le train de Lyon. C'est un caramel, c'est incroyable. Et du coup, on était sur l'estrade au GGL. Et donc, on voit un type arriver en espadrille, en short, en t-shirt. Et il est monté sur la scène, il a montré à tout le monde qu'il était rentré. Donc, oui, sans doute pas, il est au GGL Stadium.
Et est-ce que Forletta est rentré chez lui ou pas du tout?
Je vais te dire la vérité, là, je suis en train de regarder un snap en même temps que je te parle. Il n'est pas encore rentré à la maison, il est au GGL à la brasserie, là.
Génial, génial. Comme quoi, tu vois, Arnaud, tu sais quoi, on parlait justement de la nouvelle génération hyper assidue, hyper professionnelle, un peu comme toi, Alex. Mais l'état d'esprit, quand il faut dégoupiller, les mecs sont au rendez-vous. Et c'est ça qui rassure aussi. Alors, les réseaux sociaux nous permettent aussi de se dire que la génération est encore bien conne, dans le bon sens du terme, on est d'accord.
Ouais, hein, elle est encore bien conne et ça fait du bien. Il est fantastique parce que et ce groupe-là est fantastique parce que je pense qu'il y a un groupe de revanchards, il y avait aussi un groupe de revanchards, il y avait un groupe d'expérience, il y avait tout le monde qui avait envie de prouver. Et des mecs comme Enzo amènent beaucoup de fraîcheur dans ce sens-là où quand c'est dur ou quand les semaines sont un petit peu longues, parce que parfois elles sont longues, il faut se dire la vérité, ils t'amènent un vent de fraîcheur et qu'ils te dynamisent le bordel. Et que là, quand je vois ce qu'il fait depuis 4 jours, il me fait rêver. Le lendemain de la finale, moi, ma famille est partie à 10h30 le matin. Du coup, on s'est donné rendez-vous au bar de l'hôtel. On est tous allés, on avait des parts à 14h. Et pendant 3h30, c'était à mourir de rire, quoi. À mourir de rire. Et du coup, ouais, quand je le vois faire tous les jours, là, sa vidéo de hier matin, quand il filme Git, Paille, Fufu, dormir sur le Transat, ça me fait rêver, quoi. Ça me fait rêver.
Il lui a été décerné un double titre de champion de France, hein, celui du top 14 et celui de la Bringue, visiblement.
Ah ouais, moi, et là, il disait J+3, je suis encore là. Il a bien envoyé un snap là.
Raph, tu aurais pu faire ça, toi, à ton époque aussi, non?
Bah, moi, je l'ai fait parce que j'étais plus, comme tu le sais.
Mais il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Il n'y avait pas les réseaux sociaux et j'étais bien titulaire en troisième. Et quand on gagne des titres, il y a la quatrième mi-temps et il y a la cinquième mi-temps. Et en général, on tenait. Tu avais Greg Mahé, tu avais Ben Auguste, voilà, tu avais Rémi Martin, donc il y avait quand même une tripotée, mais la plupart des joueurs tenaient la route et le plus loin possible. Mais je pense que j'étais dans les derniers, mais je n'avais pas joué les matchs. Donc c'est toujours plus facile quand tu ne joues pas la finale après de tenir sur la longueur.
Il y a un joueur avec la blessure, il n'a pas joué non plus, c'est pour ça qu'il a.
C'est pour ça. C'est pour ça.
Il a de la ressource.
Un peu plus. T'as de la ressource. Bah, top.
Raph, on va remercier Alex pour sa disponibilité et sa réactivité. On va saluer Olivier Azam qui peut-être est encore dans les bras de Morphée et on lui souhaite de bien récupérer et on l'invitera évidemment dans les prochaines semaines ou peut-être à la rentrée pour évoquer, peut-être qu'il nous racontera sa bringue. Le mot de la fin, il est pour toi, Raph. Traditionnellement, je sais que tu vas vouloir évidemment remercier Alex.
Oui, Alex, et puis bien sûr, alors dans les bras de Morphée, qui doit être un peu touché quand même, hein, Morphée sous rhum ou sous bière, donc en tout cas, on lui souhaite de bien récupérer. Non, Alex, je l'ai appelé Alex à 11h45, il dit, voilà, toujours disponible, professionnel en plus, et puis voilà, voilà, j'aime ce mec parce qu'on s'était rencontré il y a quelques années sur un village rugby tour, Alex, et ça avait tout de suite accroché, donc voilà, heureux de ton parcours, heureux du parcours aussi de Montpellier, j'ai vraiment une pensée très sincère, parce que j'aime beaucoup ce mec qui est moi d'Altrade, Philippe aussi, avec qui j'ai échangé ces dernières années. Et puis voilà, tous ces mecs qui font ce club, voilà, vous avez fait fermer la gueule à pas mal de gens. Et ben, ça fait du bien d'avoir Montpellier sur les toits de France et on leur souhaite d'Europe plus tard. Merci Alex et en tout cas de très 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 bonnes vacances. Aux joueurs de 7 aussi, chapeau pour leur parcours et aux joueurs de Montpellier. Et on se recroise l'année prochaine pour parler encore de rugby. Merci beaucoup.
Merci à vous, à bientôt, je vous embrasse.
À bientôt, pour la Rafute, c'est fini pour cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler un petit peu d'équipe de France. À très vite, au revoir.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.